Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 6, scène 2.
C'est tout, n'est-ce pas ?
Ajouta-t-il après avoir signé le dernier papier. Alors, se levant avec effort, en redressant son gros cou tout plissé, il se dirigea vers la porte de la maison. La femme du prêtre, rouge d'émotion, saisit à la hâte le plat sur lequel était le pain et le sel, et, faisant une profonde révérence, s'approcha de Kutuzov, qui cligna des yeux, lui caressa le menton et la remercia.
« La jolie femme !»
dit-il.
« Merci, merci, ma belle !»
Tirant de son gros gousset quelques pièces d'or qu'il déposa sur le plateau,
« Te trouves-tu bien ici ?»
lui demanda-t-il en entrant dans la chambre qui lui était préparée et en précédant la maîtresse du logis, toute souriante. L'aide de camp engagea le prince André à déjeuner avec lui. Une demi-heure plus tard, Kutuzov le fit demander. André le trouva étendu dans un fauteuil, l'uniforme déboutonné, lisant un roman français, « Les chevaliers du cygne » de Madame de Genlis.
« Assieds-toi !»
lui dit Kutuzov en glissant un couteau à papier entre les pages du livre et en le mettant de côté.
« C'est bien triste, mais rappelle-toi, mon ami, que je suis pour toi un second père. »
Le prince André lui raconta ce qu'il savait des derniers moments de son père et lui dépeignit l'état dans lequel il avait trouvé les cigories.
« À quoi nous ont-ils amenés ?»
dit soudain Kutuzov d'une voix émue, en songeant à la situation de son pays.
« Mais le moment viendra !»
reprit-il avec colère. Et, ne voulant pas continuer ce sujet qui l'émouvait, il ajouta
« Je t'ai fait venir pour te garder auprès de moi. « Je remercie votre Altesse, »
répondit le prince André.
« Mais je ne vaux plus rien pour le service dans les états-majors. »
Kutuzov, qui remarqua le sourire dont il accompagnait ces paroles, le regarda d'un air interrogateur.
« Et d'ailleurs, »
poursuivit Bolkonski,
« je tiens à mon régiment. Je me suis attaché aux officiers et je crois que mes hommes ont de l'affection pour moi. » Et j'aurai du chagrin à m'en séparer. Si je refuse l'honneur de rester auprès de votre personne, croyez bien que... »
Une expression bienveillante, spirituelle et légèrement railleuse, passa en ce moment sur la grosse figure de Kutuzov, qui l'interrompit en disant
« Je le regrette. Tu m'aurais été utile, mais tu as raison. Ce n'est pas ici que nous avons besoin d'hommes. » Si tous les conseillers ou prétendus tels servaient comme toi dans les régiments, cela vaudrait beaucoup mieux. Je me souviens de ta conduite à Austerlitz. Je te vois encore avec le drapeau à la main. »
À ces paroles, une fugitive rougeur, causée par la joie, illumina la figure du prince. Kutuzov l'attira à lui, l'embrassa, et André put voir que ses yeux étaient de nouveau humides. Il savait que le vieillard avait la larme facile et que la mort de son père le portait naturellement à lui témoigner une sympathie et un intérêt tout particulier. Cependant, l'allusion le flatta et lui fit un plaisir extrême.
« Suis ton chemin à la garde de Dieu. Je sais qu'il est celui de l'honneur. Tu m'aurais été bien utile à Bucarest. »
reprit-il après un moment de silence.
« Je n'avais personne à envoyer. Oui, ils m'ont accablé de reproches là-bas, et pour la guerre et pour la paix. Et pourtant, tout a été fait à son heure, car tout vient à point à qui sait attendre. Là-bas aussi, les conseillers pullulaient tout comme ici. Oh, les conseillers! Si on les avait écoutés, nous n'aurions pas conclu la paix avec la Turquie, et la guerre durerait encore. » Kamensky serait perdu s'il n'était mort. Lui qui, avec 30 000 hommes, prenait d'assaut les forteresses. Prendre une forteresse n'est rien, mais mener à bonne fin une campagne, voilà le difficile. Pour en arriver là, il ne suffit pas de livrer des assauts et d'attaquer. Ce qu'il faut avoir, c'est patience et longueur de temps. Kamensky a envoyé des soldats pour prendre Roustchouk. Et moi, en employant que le temps et la patience, J'ai pris plus de forteresses que lui et j'ai fait manger aux Turcs de la viande de cheval. Crois-moi,
ajouta-t-il en secouant la tête et en se frappant la poitrine.
Les Français aussi en tâteront, croisant ma parole. Il faudra pourtant accepter une bataille,
dit le prince André.
Sans doute il le faudra, si tous le désirent. Mais je te le répète, rien ne vaut ces deux soldats qui s'appellent le temps et la patience. Ceux-là arriveront à tout, mais les conseillers n'entendent pas de cette oreille. Voilà le mal. Les uns veulent une chose, les autres une autre. Que faire? Que faire, je te le demande?
Répéta-t-il, comme s'il attendait une réponse, et ses yeux brillaient et s'éclairaient d'une expression profonde et intelligente.
Je te dirai, si tu veux, ce qu'il y a à faire et ce que je fais. Dans le doute, mon cher, abstiens-toi,
poursuivit-il en scandant ses paroles.
Eh bien, adieu, mon ami. Rappelle-toi que je partage ta douleur, et cela de tout cœur. Je ne suis pour toi ni le prince, ni le commandant en chef. Je te suis un père. Si tu as besoin de quelque chose, viens à moi. Adieu, mon ami.
Et il l'embrassa. Le prince André n'avait pas encore franchi le seuil de la chambre que Kutouzov, harassé de fatigue, poussa un soupir, se laissa choir dans son fauteuil et reprit tranquillement la lecture des Chevaliers du Cygne. Chose étrange et inexplicable, cet entretien eut sur le prince André une action calmante. Il retourna à son régiment, rassuré sur la marche générale des affaires et confiant en celui qui les avait en main. L'absence de tout intérêt personnel chez ce vieillard, qui n'avait plus, en fait de passion, que l'expérience, résultat des passions, et chez qui l'intelligence, destinée à grouper les faits et à en tirer les conclusions, était remplacée par une contemplation philosophique des événements, le rassurait. Et il emporta avec lui la conviction qu'il serait à la hauteur de sa mission. Il n'inventera ni n'entreprendra rien, mais il écoutera et se rappellera tout. Il saura s'en servir au bon moment, n'entravera rien d'utile et ne permettra rien de nuisible. Il admet quelque chose de plus puissant que sa volonté, la marche inévitable des faits qui se déroulent devant lui. Il les voit, il en saisit la valeur, il sait faire abstraction de sa personne et de la part qu'il y prend. Il inspire de la confiance parce que, malgré le roman de Madame de Genlis et ses dictons français, on sent battre en lui un cœur russe. Sa voix a tremblé lorsqu'il a dit « À quoi nous ont-ils ramenés ?» et lorsqu'il les a menacés de leur faire manger du cheval. Mais ce sentiment patriotique, ressenti par chacun à un degré plus ou moins grand, qui avait puissamment contribué à en faire nommer Kutouzov général en chef, malgré la violente opposition de la Camarilla. Et une approbation unanime et nationale avait confirmé ce choix d'une façon éclatante.